C'est des rigolos de kermesse.
Les mecs, ils en ont rien à foutre de leurs citoyens.
Tout ça fait qu'en ce moment, il y a un espèce de mal-être ambiant.
Moi, je rêve, oui, que ce saboté. Ça, c'est... j'en rêve.
Ça grésille dans le poteau. Histoire de la lutte contre la THT Cotentin Maine. Un objet radiophonique en 5 épisodes, réalisé à partir d'entretiens enregistrés de 2013 à 2016.
L'arrivée des Verts et des socialistes au pouvoir, ça correspond à ça aussi.
Merci les Verts.
Et les aberrations de notre État, du système capitaliste.
Ah, les pelles à Vinci, les pelles à Eiffage et les pelles à Bouygues, c'est fait beaucoup de la merde, quoi.
Mais on les aura, vous n'avez pas vous inquiéter, on les aura. On les aura d'une manière ou d'une autre.
Épisode 2. Des clés à molette et des grues. Chronique de la construction de la ligne.
Première partie.
Fin septembre 2011, il y a eu l'annonce comme quoi il y aurait un camp à Valognes pour bloquer un train de déchets nucléaires en partance pour l'Allemagne.
Bonjour à toutes et tous. Fait historique, pour la première fois en France, un train partira avec 24 heures d'avance. Et non, ce ne sera pas un TGV de voyageurs ébahis et chanceux, mais bien le train Castor qui ne transporte rien d'autre que des déchets nucléaires radioactifs. En tout cas, nous, ça ne nous a pas empêchés d'être là. Depuis lundi midi, on installe joyeusement un camp de résistance, un lieu de convergence des luttes, pour continuer à dire que la chaîne du nucléaire est une abomination du début à la fin. La question de faire confiance à cette technologie n'a jamais été soumise à une décision populaire. C'est pourtant à nous de réévaluer nos besoins de manière réaliste et d'y répondre par des moyens raisonnables et plus respectueux du vivant. Le rendez-vous du rassemblement pour le blocage est à Lieusaint, à 2 km au sud de Valognes. Rejoignez-nous nombreux pour grimper ensemble sur les voies et bloquer le train le plus longtemps possible.
Le train, il passe juste au fond de votre champ, en fait. Le train
ah, mais oui. Ben oui.
Et vous savez qu'il y en a régulièrement qui passent, des trains de déchets nucléaires?
Oh, ben écoutez, nous, vous savez, les trains, ils en passent tous les jours, on ne fait pas attention. Hein.
Vous savez pas lesquels contiennent des déchets nucléaires ou pas?
Oh, ben non.
8 heures d'affrontement entre 500 CRS et autant de militants anti-nucléaires. À plusieurs reprises, des activistes investissent les rails, un ballast et un transformateur sont endommagés. Très mobiles, les manifestants apparaissent déterminés.
Malgré un déploiement sidérant des forces de l'ordre, c'est qu'ils n'étaient pas du tout prêts à faire face à les stratégies qu'on avait mises en place d'étalement, d'être à plein d'endroits en même temps, à essayer d'aller sur les voies.
Les 11 wagons chargés de déchets hautement radioactifs ont quitté Valognes avec plus de 2 heures de retard. Ce convoi, s'il n'est pas trop ralenti, devrait atteindre son terminus, Gorleben, au nord de l'Allemagne, d'ici environ 3 jours.
Le fait que la ligne THT est l'exutoire de l'EPR, enfin serait l'exutoire de l'EPR, le lien, il est là, tout à fait, entre la lutte anti-THT et le camp de Valognes. Puisque le camp de Valognes est d'avant tout un camp anti-nucléaire qui a été un grand succès. Il est vécu comme ça par tous les participants nombreux.
Moi, je reviendrai même à novembre 2011, enfin 2010. Il y a eu le blocage du train de déchets à Caen. Où il y avait 200 personnes. Donc, il y a 5 personnes qui se sont enchaînées ont été blessées. Ça a été assez traumatisant pour eux, mais il y avait quand même 200 personnes autour. Et ça, c'était pas vu depuis 30 ans peut-être, 40 ans. Depuis très longtemps, en Basse-Normandie. Et après, il y a eu Fukushima, en mars. Et c'est à ce moment-là qu'il y en a qui ont commencé à parler de faire un camp, quoi. Enfin, un truc... Enfin, qu'il y avait des énergies, il y avait du monde qui était enfin, potentiellement intéressé pour faire... Enfin, qu'il y avait quelque chose, quoi, anti-nucléaire en Basse-Normandie, enfin, que c'était pas mort, en fait, ces idées-là.
L'objectif du camp de Valognes, c'était à l'occasion du départ de train, de faire quelque chose qui puisse perturber et montrer que il n'y avait pas que les Allemands qui s'opposaient à ce train, mais qu'il y avait aussi un lien international et des connexions en termes de lutte. Après, donc, s'est déroulé effectivement ce camp aux alentours du 23 novembre, Et de fait, le lendemain, ça a été signé pour la Manche et le Calvados, les permis de construire pour la ligne, avec les débuts du travaux qui ont entamé presque dès aussitôt.
Du coup, la lutte anti-THT très normée dans des associations jusqu'à maintenant, et qui piétinait depuis plusieurs années en prenant une voie très légale d'opposition, s'est rendu compte que ben, ça ne pourrait pas le faire comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là, tous les participants à cette lutte très normée ont pensé qu'un coup d'éclat comme Valogne pouvait être générateur de réussite.
Et c'est un peu dans ce contexte-là que s'est retrouvé la... l'Assemblée du 14 janvier 2012 à Coutances.
Les contacts ont été pris de façon diverses et variées sûrement pour aboutir à cette assemblée générale du 14 janvier qui au départ était je pense conçue comme la réunion bilan du camp de Valogne.
Ça c'était en 2012 l'assemblée de Coutances du 14 janvier, c'est ça?
C'était 14 janvier 2012 à Coutances, oui. Je n'avais jamais vu autant de gens d'horizons si divers, autant politiques qu'associatifs, que des différentes régions de France, en fait. Hein. Il y avait des Parisiens, des Brestois, beaucoup de Bretons, mais aussi des gens de partout, en fait. Hein. Voilà. Et c'est la première fois que je voyais fonctionner en participation horizontale une telle assemblée. Ça m'a semblé... extraordinaire, quoi. Tout le monde s'écoutait, tout le monde pouvait parler, expliquer sa présence. Et c'est vrai que c'est là que publiquement l'aide a été demandée.
De la part des gens de la THT,
l'aide a été demandée, de la participation de tous ces gens anti-nucléaires du camp de Valogne, de participer à cette lutte et de donner vraiment le coup de main qui était attendu. La liaison, elle est là et c'est vraiment là que ça s'est créé et qu'est né la fameuse assemblée du chef-reine à ce moment-là. Et bien après, ça s'est retrouvé, oui voilà, le pli de se réunir mensuellement, mais quelquefois plus fréquemment. Et là, s'est organisée cette lutte et l'opposition avec bien sûr plus de bras, donc plus de moyens et de facilités techniques pour bloquer ou des choses, enfin voilà. En fait, on a décidé au cours d'une des réunions de sensibiliser la population à l'invasion de la commune par RTE, puisque c'était la seule commune en fait qui restait intouchée. Hein. Toutes les communes autour qui étaient impactées par les pylônes, la ligne était faite, il ne restait plus que cette liaison-là, hein, traverser le Chefrenne. Et il nous semblait important d'aller sensibiliser la population pour qu'on soit solidaires les uns des autres et qu'on participe tous au blocage de la commune quand, un jour, les travaux arriveraient. En fait, l'avenir dira que ça n'a pas suffi, mais on a quand même rencontré auprès de la population, à part vraiment une personne qui était vraiment opposée. Les autres, en fait, ne savaient même pas ce qu'il y avait au bout de la ligne. Et faire prendre conscience à tout le monde qu'on était tous des riverains de la ligne et qu'au bout, il y avait ce fameux EPR à mettre en route, ça sensibilisait un peu. Et puis ça nous a permis aussi d'être à l'écoute, notamment juste en bordure de Margueret, d'être à l'écoute des gens qui avaient d'autres problèmes, comme l'implantation des éoliennes à Margueret aussi. Et tout ça, ça nous a permis de discuter, de se rendre compte que même des gens de 80 ans étaient prêts à nous donner un coup de main. C'était quand même un peu... ça nous donnait du punch, quoi. Mmh. Mais c'était bien aussi d'entendre que les jeunes sont là aussi pour prendre la relève, parce que c'est eux, en fait, qui héritent de tout ce qu'on a semé, et de tout ce qu'on a accepté dans cette énergie nucléaire et dans ces démarches de RTE.
Savait qu'il y avait des volontés de s'opposer. On avait déjà entendu parler de. Voilà, il y avait des gens qui enlevaient les piquets, qui enlevaient les panneaux de permis de construire, ce genre de choses. Et de se dire qu'il y avait probablement besoin qu'il y ait quelque chose de public, où on puisse aussi se rassembler sur cette lutte.
Il y avait l'idée, à partir du moment où les travaux commençaient, d'arriver à interférer avec les chantiers de diverses manières, en fait, déjà à ce moment-là. En comprenant bien que par ces actions publiques-là, il y avait des liens qui étaient possibles, des relations de confiance qui pouvaient se lier et que ça permettait de donner un certain élan à la lutte qu'on ne pouvait concrètement pas trouver tant qu'il n'y avait pas de travaux, quoi, et tant que ça restait dans du juridique. Ça a permis de familiariser énormément de gens avec les pratiques de l'action directe non violente et des dégradations en tout genre sur les pylônes pour vraiment construire un rapport de force avec l'État et RTE, quoi.
Proposer des actions de déboulonnage à ce moment-là, bon, ça n'a rien à voir avec ce qui est développé dans l'antipub. C'était vraiment, ça faisait vraiment référence au boulon qui permettait de faire tenir les pylônes. Et du coup, à ce moment-là, l'idée, c'était de proposer des actions collectives qui sont des actions de sabotage, mais qui sont assez simples, en fait, qui étaient réappropriées par plein de gens et qui consistaient tout simplement en s'armer de clés à molette pour dévisser des boulons, de scie à métaux pour scier certaines parties métalliques, histoire de dire qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait pour démonter ce qui avait été monté pour nous pourrir la vie. Et ça, c'est quelque chose qui nous a donné beaucoup de force. Même si, évidemment, démonter un pylône, on n'ira jamais jusque-là dans l'état actuel des choses, et ça ne remet pas en question tout le problème général, mais c'était une manière de dire on peut, là, se réunir et faire quelque chose sur ce type de structure.
Voilà. Et c'est là qu'a été sûrement décidé certaines des actions, quelles sont les actions des petites mains, mais des actions aussi très publiques, donc très médiatisées, mais tant mieux, il fallait les deux. Il fallait les deux, et du coup, on s'est quand même bien rendu compte que dans certaines actions de déboulonnage public, nous avons été fort nombreux, et qu'on a drainé beaucoup de membres de l'Assemblée, puis aussi beaucoup de gens locaux, habitants, qui suivaient.
Et le début des déboulonnages publics, donc le premier qui avait eu lieu en septembre 2010, et puis un second en avril 2011, et le second ayant lieu à Saint-Sébastien-de-Ré, qui était l'endroit où se construisait à ce moment-là le premier poste lié à cette THT.
Le poste de transformation.
Le poste de transformation à Saint-Sébastien-de-Ré et à Ré.
Tout le monde était content ce jour-là. Il y avait une énergie. Tout le monde est reparti avec un énorme sourire et un soulagement. C'était une super matinée, ça. J'en garde un bon souvenir.
La deuxième AG, donc la première qui a eu lieu au Chefren, à la fin de l'AG, on s'est retrouvés sous des pylônes, quoi. Et c'était assez, là aussi assez fort, assez... assez mobilisateur.
Bah, ça soude. Hein.
Les gens sortent en fait de l'Assemblée Générale où ils sont tous assis, où ils se rencontrent aussi un peu, mais du coup ils se rencontrent dans d'autres cadres, ça crée des affinités entre personnes.
De la
entre...
confiance.
Ouais, de la confiance et des, ouais, des, un commun quoi en fait. Et du coup je pense que c'est pas tant sur l'efficacité même, de, enfin l'efficacité pratique de l'action directe, mais plus le, quelle est la portée collective en fait de cette action.
Ça nous permet quand même de déplacer... un collectif de gens qui seraient peut-être pas là pour faire ce que certains appellent les petites mains à d'autres moments.
Chacun à son niveau.
Chacun à son niveau.
Fait ce qu'il...
Certains seraient peut-être pas allés se cacher derrière la bâche, mais voilà.
Mais ils soutenaient les gens qui étaient derrière la bâche.
Avait aussi l'objet un petit peu de que chaque groupe qui pouvait se retrouver tout au long de la ligne et qui proposait des actions, des occupations, des blocages, de pouvoir se les partager et de s'inviter les uns les autres, et avec des affiches agenda qui nous invitaient régulièrement à des balades sous les pylônes, à des pique-niques chez les uns ou chez les autres, en particulier chez des propriétaires qui ne voulaient pas que de la ligne chez eux. Et c'est vrai que bah, du coup, à chaque AG, on repartait avec une petite liste d'endroits où on pouvait aller.
Et au mois de mars aussi, ça fait partie des mois super intenses à ce moment-là. Il y a eu aussi le 11 mars... Le rappel de Fukushima et l'appel aussi à des actions à ce moment-là pour relier ce qui est en train de se passer en Manche et en Mayenne par rapport à la construction des pylônes, et aussi une dimension beaucoup plus large qui nous reliait à des gens au Japon qui vivaient une catastrophe nucléaire, quoi. Et du coup, il y a eu des actions conjointes là en Manche et en Mayenne à ce moment-là de déboulonnage public.
Il y avait un peu une réaction à la chaîne humaine appelée par le réseau Sortir du nucléaire, où le mot d'ordre qu'on s'était donné, c'était « Déchaînons-nous contre les lignes THT ». Du coup, il y a eu des déboulonnages à ce moment-là.
Je ne veux pas le faire, je ne veux pas déranger, ça m'étrocher. Je ne veux pas bouger, je ne veux pas vomir la vie. Je ne veux pas garder les neurones, l'horreur des pylônes.
Invente la lutte aussi jour après jour, donc voilà, l'idée du sabotage elle n'est pas complètement en décalage avec là où on en est, et puis les gens des fois le feraient pas eux-mêmes, le disent quoi, mais bon quand il y a relaté dans la presse ou en off un peu de témoignages de droite et de gauche qu'il se fait des choses, ben les gens rigolent un peu, et puis voilà. Ils voient aussi des fois concrètement les résultats sur le terrain, où il y a une entreprise qui a obligé de repasser passer tout le béton qu'il a fallu 2 semaines pour couler. Enfin, et puis enfin, ça les amuse que RTS fasse chier à ça. Puis il y a des entreprises clairement qui abandonnent des chantiers ou qui avaient prévu d'intervenir dans les 2 semaines d'après et qui ne peuvent pas parce que ça a du retard et c'était engagé sur d'autres trucs, donc ça fout le bordel, rien que ça. Donc voilà, il y a une certaine animosité envers RTE. Parce que dans tout le préalable de concertation, ils ont été aussi assez odieux, quoi. Donc là-dessus, de les emmerder un peu et d'y aller crescendo, je pense que ça choque personne.
We'll be right back.
couldn't make you feel better.
C'est aussi l'émergence publique en gros de l'idée d'occuper le château d'eau du Chefresne et le bois du Chefresne. Enfin, Jean-Claude Bossard était là à cette assemblée et il a parlé de cette opportunité qu'il y avait d'occuper son bois de part et d'autre duquel des pylônes devaient être construits. Et du coup, pour faire passer la ligne à cet endroit-là, il y avait la nécessité de couper le bois. Et il considérait que le fait d'occuper ce bois pouvait entraver la bonne conduite des travaux sur la commune du Chefresne.
Il s'y est passé des choses très fortes. Hein. C'est vrai que toutes les semaines, on s'y retrouvait.
Qu'est-ce qui se passait dans ce bois? Raconte un peu. Refais-le vivre un peu pour nous.
D'abord, c'est de belles rencontres. Hein, de belles rencontres. Il y a eu des gens où j'ai eu un petit peu plus de mal. Il a fallu s'apprivoiser, mais d'autres ont vraiment des belles rencontres. Donc, et puis, très vite, on a trouvé nos marques. Il y avait une dynamique dans ce bois. On y mangeait.
Ah oui, les bonnes popotes.
Toutes les semaines, il y avait un apéritif qui se terminait souvent, quelqu'un amenait une gamelle. Puis au début du bois, hein, puisque c'était fin mars que ça a commencé, même les gens des patelins environnants amenaient à manger, quoi. Et on se retrouvait des grandes tablées, même s'il pleuvait, tant pis, on s'abritait sous la tente. Et puis on a même construit une cabane justement pour pouvoir s'abriter. C'était le samedi soir qu'on se retrouvait aussi pour manger. J'étais bouffée par les moustiques, mais c'était pas grave, quoi. Et puis on a appris à connaître des tas de gens. Et ça a été d'une grande richesse. Sortir un petit peu de notre petit patelin, de nos petites habitudes, de nos petits amis habituels, de nos... Voilà. Et ça a été génial.
C'est vrai que le fait d'avoir que Jean-Claude Émile Bois à notre disposition, ça a pu concrétiser notre envie de lutte et de résistance, en fait. Donc on avait rencontré déjà des gens qui faisaient partie de cette THT et qui avaient envie aussi de créer un lieu de lutte. Ça a permis de le faire et de rencontrer justement des gens qui
venaient partout,
qui venaient partout et qui avaient envie aussi de résister comme à la ZAD. Donc c'était, je trouve que ça avait été très positif. Il y a eu des choses, des fois des hauts et des bas, mais et puis on a eu aussi pas mal de riverains à venir aussi, quoi.
On a rendu le samedi une grande tablée et puis on a appris à monter dans les arbres aussi, les enfants aussi.
Oui, donc il y a perdu son vertige.
Alors si l'occupation du bois a été effective et puis très suivie par la population locale qui nous abondait de nourriture et qui venait de temps en temps participer à nos repas, mais enlevons quand même le côté festif continuel, on va croire qu'on fait que la fête, c'est pas du tout ça. On avait vraiment une occupation importante et ce qui a permis quand même au bois de tenir assez longtemps par rapport aux forces de l'ordre. Alors on a eu ce soutien assez continu de gens qui venaient, beaucoup de gens de promeneurs du dimanche, hein, qui venaient voir qu'on laissait entrer et visiter l'exposition d'affiches et autres, et voir les conditions d'occupation du bois. Et puis on a eu, à partir d'un certain moment, quand ça a été un petit peu médiatisé, voire beaucoup médiatisé, l'arrivée de gens d'un autre genre, c'est-à-dire les politiques. Donc les élus locaux, les élus régionaux, les élus départementaux. Et ces gens-là, eh bien, c'est vrai qu'on a eu du mal à les accepter, donc on ne les a pas laissés rentrer dans le bois. Parce qu'ils venaient non pas... au départ, très, très franchement, avec certainement, peut-être pour certains, l'envie sincère d'apporter leur soutien. Mais d'apporter leur soutien, si c'est juste serrer les mains en disant « on est avec vous » et puis voilà que ça s'arrête là, eh bien franchement, ils ne méritent pas le nom d'élu politique. Quand on est un élu local, régional, départemental, on se doit d'avoir vraiment une vraie prise de position politique et d'essayer de porter ça, ce débat-là, dans le débat politique, de façon à ce qu'on soit entendu. Or, en fait... voilà, il ne se situait absolument pas dans notre dans notre démarche à nous d'occupation et d'opposition à RTE et à tout ce monde nucléaire et capitaliste.
malgré l'envie des gens de continuer des actions rassemblement public, on gardait de la visibilité. Ces rassemblements-là étaient de plus en plus fliqués et c'est pour ça que les actions publiques ont laissé de plus en plus place aux actions discrètes. Ah bon, ça prouve qu'on les dérange. Quand on voit RTE qui vient pleurer avec sa liste de dégradation qui rendait ingérable le projet, la préfecture a répondu immédiatement par une augmentation de la répression.
Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses de fait qui n'ont jamais été publiques ni publiées.
10 000 dégradations et vols sur foreuse sur le
pylône numéro 5.
Manifestation et dégradation sur les pylônes
19 mars 2012. Une manifestation d'opposition aux travaux.
15 janvier 2012. Dégradation de la foreuse située sur le pylône 7 mai.
Dégradation de 3 en base sur
le pylône. Le 11 mars 2012. Plusieurs dégradations ont eu lieu sur le pylône.
Occupation et dégradation d'un bâtiment appartenant à RTE.
Le 15 mai. Dégradation du pylône
11 mai. Dégradation de grue sur le pylône.
25 avril. Dégradation, déboulonnage, cornière tordue du pylône numéro 5.
Blocage de l'accès au pylône 544.
12 février 2012. Opération de déboulonnage. Le 30 mai, dégradation du pylône.
Le 14 mars 2012, des dégradations ont de nouveau été commises sur le pylône 5.
Dégradation d'engin.
11 mai, destruction de 10 caisses d'isolateurs.
Le 20 mars 2012, a eu lieu la dégradation de 2 véhicules de chantier.
25 avril, manifestation
de dépôt de chantier.
Le 12 mars 2012, des dégradations ont eu lieu sur des engins.
Un blocage du dépôt de chantier.
Il y a eu un peu une lutte qui s'est cristallisée dans la Manche, mais il y avait aussi des lieux de résistance en Mayenne, parce qu'il ne faut pas oublier que la ligne elle s'étendait sur plusieurs départements. Et du coup, en parallèle de ce qui se passe dans la Manche, RTE essaye de poursuivre les travaux en Mayenne, et notamment chez la famille Hameau, qui a décidé de ne pas se laisser faire.
Et du coup, la proposition qui s'est dégagée, c'était de faire une cabane à l'emplacement du pylône. Et conférence de presse, c'est ça, conférence de presse, avec une petite cabane à l'emplacement du pylône. Du potentiel
du futur pylône.
C'est ça qui est décidé pour un samedi, 2 juin. Début de semaine, il y a un petit groupe qui fait une ossature de cabane chez eux. Le jeudi soir, 19h, quelque chose comme ça, arrive dans la cour de la ferme chez Nicole et Marcel. Arrive dans la cour de la ferme, 2 ou 3 bagnoles.
Alors, de Marseille, c'est pas du mot, de belles voitures. Alors, on regarde, on les voyait pas monter. On a dit, s'ils sont pas montés plus haut là-bas, ils sont arrêtés chez nous. Je dis, on prend nos vélos et on va voir. Alors, nous, elle se dit pas. J'arrive, je dis bonjour. Et puis, je dis, ben, moi, je voudrais savoir qui vous êtes parce que je dis, moi, je vous connais pas. Alors, ils se sont nommés, je sais qu'il y avait madame la préfète, il y avait.
D'accord.
Oui, Jacob, on le connaissait.
Mais...
Et puis, il y en avait plein, mais les noms, je me rappelle plus. Il y avait les gendarmes aussi.
Ah, il y avait des gendarmes avec
gendarme
eux.
Gendarme dernier, gendarme de Mayenne, chef de la gendarmerie de Mayenne.
Et le sous-préfet.
Le
sous-préfet,
sous-préfet, oui. Et puis 6-8 gendarmes.
19h,
19h.
Le soir.
Le soir.
On n'est pas dans les heures administratives. Si tu veux voir les gens, tu les préviens. Oui. Il y a un truc là, c'est de l'ordre de l'intimidation là. Je ne sais pas comment traduire ça autrement. Et donc 19h, il se pointe en disant « Votre cabane, là, elle est illégale, vous nous la dégagez sous astreinte de 2000 euros par jour. »
Vous avez eu un interrogatoire quand même
oui.
Le soir.
Oui, on a eu un interrogatoire.
Ils vous ont embarqué dans la voiture?
Non, oui, moi, dans la voiture en bas, là, il a fallu que je...
Moi, je n'ai rien à vous dire.
Donc, tu as fait quoi, une déposition ou,
Ils m'ont interrogé pour savoir comment... Il fallait redire ce qu'on avait dit, pourquoi qu'on faisait cette cabane-là. Ben, on a dit toujours que c'était pour la pêche avec les enfants. Que... Et vous l'avez fait tout seul, oui. Mais alors, il y a eu quelqu'un qui les a renseignés sans doute, non?
Il y a eu sûrement quelqu'un qui les a renseignés.
Oui, parce que pour savoir, du mardi et arriver là le jeudi soir...
C'est rapide quand même. Hein? Ah ben oui.
Ou alors ils surveillaient, je sais pas. Enfin, ils devaient écouter, ou on était peut-être sous écoute ou quelque chose, je sais pas.
Parce qu'en fin de compte, ce qu'ils voulaient faire, c'est commencer les travaux le vendredi. Ah oui.
Mais non, on savait pas. On savait pas, nous.
La pression est telle qu'il décide, un coup de tracteur, il dégage la cabane. Et du coup, le samedi suivant, la conférence, donc ils préviennent un peu les gens que ça s'est passé quand même. Et du coup, tout le monde outré en disant, bah, c'est que ça les gêne, quoi. Donc on va la faire, la conférence de presse samedi, quoi.
On a ramené la cabane.
Et du coup, en passant chez Nicole et Marcel, en disant, bah, vous, peut-être c'est mieux que vous soyez chez vous, parce que voilà, sinon,
vous restez à l'écart.
C'est vous, on vous a dit 2000 euros par jour, à vous. Mais nous, on nous a rien dit. Donc on va la prendre, la cabane, et puis on va la ramener sur votre terrain.
Il y avait du monde en plus à venir à cette invitation, justement, à la mare.
On était une 40, 50, ouais.
Moi, j'ai mis 50, oui. Il y avait des enfants en plus.
Oui,
bah, nos enfants.
C'était familial, il y avait
On ne s'attendait pas du tout à...
On est arrivé tranquillement le matin et quand on a vu passer autant de camions de gendarmerie et puis l'hélicoptère et tout, on a quand même commencé à se dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on les voyait tous passer là et encore on n'a pas tout vu puisqu'il y en avait qui devaient arriver par l'autre côté.
Moi, quand on est arrivé le matin, j'ai pris le vélo, j'ai fait un peu le tour et en fait, ils bloquaient tous les chemins d'accès.
Partout. Et là, on a quand même
tous
été très,
d'accès
très,
étaient bloqués.
Très surpris.
Donc, il y avait deux, trois fourgons de l'autre côté avec des motards. Puis pareil en bas ici. Donc, ils quadrillaient les routes.
On avait fait mettre les voitures dans le champ, là. C'est là qu'il y avait l'autre, là, de...
Un gars de la DCRI, là, oui.
Qui relevait tous les numéros de voiture.
Il relevait les numéros de plaque.
Ah, dans le bon sens, il a pu se voir relever longtemps, parce que moi, je suis allée, je dis, quoi, vous relevez les numéros de voiture? J'ai dit, allez, vous me donnez votre papier. Il disait, mais vous me reconnaissez pas, j'étais là, parce qu'il était là le mercredi soir avec la... J'ai dit, non, j'ai dit, vous me donnez ça. Et puis, je dis, vous dégagez, vous êtes terminé, vous dégagez. Alors, il est parti.
Je me rappelle de l'huissier au milieu de la route avec son mégaphone qui fait et qu'on marche seulement quoi et qu'à un moment il y a contact et on est plus nombreux et qu'il se pousse quoi, on n'a même pas trop besoin de le pousser, il se pousse tout seul parce qu'on met la cabane non pas à l'emplacement du pylône mais au bord de la mare, bien loin même du chemin de servitude. Et c'est là qu'on fait la conférence de presse et c'est là qu'à un moment les gendarmes arrivent et se placent, les mobiles. Et quand ça commence à chauffer, ces enfants à un moment prennent peur, quoi. Et ils disent, papa, on va aller se mettre derrière les gendarmes, on a peur.
Et là, Jérôme, l'éducation, ils ont reçu les gosses.
Voilà, ils ont reçu une éducation où respect des institutions, respect de tout ça, quoi. Ouais, ils disent, on va aller se cacher, on va se protéger derrière les gendarmes. Et c'est leur père qui est obligé ce jour-là de leur dire, aujourd'hui, c'est pas le bon côté.
Et puis là. Ouais, ils ont fait le tour du plan d'eau, ils nous ont encerclés, quoi, et ils nous ont dégagés sur la voie publique.
Et ils nous ont fait sortir en donnant un arrêté, c'est ça, par lequel on n'avait pas le droit d'être sur des chemins d'accès, dans des endroits où il y avait des travaux, ou c'était quoi encore, ou sur des terrains ou
une propriété de RTE. L'arrêté ne nous concernait pas finalement. Puisqu'on était propriétaire, enfin on est propriétaire,
on n'a pas signé,
signé aucune convention avec RTE. Donc,
il n'y avait pas de travaux commencés.
Rien ne justifiait cette expulsion. Quoi. On est sur des terres privées.
On est chez nous.
Ouais,
c'est ce que vous avez dit, non?
Oui, on avait beau leur dire qu'on était chez nous, qu'on était propriétaire, mais ils nous expulsaient quand même. Hein.
C'est d'ailleurs bizarre d'en parler au passé, d'ailleurs.
On était chez nous.
Voilà.
Oui, non, c'est toujours chez vous, de toute façon.
Voilà, c'est...
cette journée-là, on a douté quand même. Hein. Et après, les travaux ont commencé très vite, hein, du pylône.
Et ça, c'était le 13 juin.
Et je crois que ça a été le pylône construit le plus rapidement sur la ligne. Parce qu'en 15 jours, il était fait. Mais comme nous, on était en justice pour faire un référé au même moment, je pense que
ça a accéléré leurs travaux.
On a vu la promesse orale, évidemment, toujours.
La promesse que, vous inquiétez pas, on vous préviendra avant.
Oui.
Et bizarrement, ils sont intervenus alors qu'on n'était pas au courant.
Le recommandé arrivait le lendemain.
Et le recommandé arrivait le lendemain, en nous annonçant, nous commencerons les travaux hier.
Donc téléphoner à la poste pour savoir s'il y avait un recommandé, pour que le facteur l'amène directement.
Oui.
Le facteur il a dit, moi j'ai pas de recommandé, je vais pas m'emmener, je n'ai pas.
La préfecture qui appelle la poste pour faire accélérer les choses. Dépêchez-vous d'amener le recommandé.
Ils avaient l'autorisation du permis de construire, mais ils n'avaient pas le droit d'accès au pylône. Mais ils sont passés complètement dans l'illégalité, ils n'en ont rien à foutre.
Il y avait une occupation, les gendarmes étaient tout le temps là.
Pendant toute la construction du pylône.
Ça tournait la nuit, ça tournait... Mm.
C'était surveillé.
Ah oui, oui, ah, oui c'était, oui, bah, il y avait le vigile qui était là.
Il n'y avait que le vigile.
On est allé un coup à Herné avec Sylvie.
Porter plainte, ouais.
Ouais, parce qu'il coulait.
Du béton.
Ah oui.
Si, il coulait du béton.
Il coulait du béton pour faire les fondations du pylône et le béton partait dans la mare.
Alors là, je dis sûrement, c'est comme ça, parce que j'aurais sûrement appelé la police de l'eau pour.
Ouais, pour constater.
Oui. Ouais, mais là, les mains.
Alors, j'ai dit ça quand je suis revenue. Mandin qui était là et il a dit. Et la police de l'eau va venir vite. Alors ils ont tout ramassé, c'était fini. Et là, on s'est fait injurier à Irmé. Hein.
Que les ai pris en photo, qui était
par un gendarme.
Vous étiez toutes les deux, toi aussi.
Sylvie, oui. Et moi, j'ai jamais eu quelqu'un me faire injurier comme ça. Hein.
Parce qu'il voulait
à la gendarmerie, la
oui.
Ouais. Il voulait pas prendre votre plainte.
Eh ben non, il avait pas le temps. Ils étaient débordés. Alors moi qui dis comme ça, je dis c'est quand même dommage d'être démordé, dire qu'il y en a 4 ou 5 chez nous. Ah oh bah alors là, ça y a pu être le comble. Ben oui, c'était vrai, il était 4 ou 5 là à la mare en train de regarder.
Et ce qui touche, c'est sans doute le fait que toute sa vie, elle a été agricultrice avec son bonhomme. Ils ont fait les choses en toute honnêteté, le mieux possible, avec conscience. Et en ayant foi un peu dans
la justice.
La justice, la démocratie et tout, quoi, ça fonctionne. Il y a quand même pire ailleurs. Hein. Et là, ils se prennent.
Une gamelle.
Gros truc sur la gueule, là. Ils disent, mais comment on fait on est quand même. Enfin, ils tombent de haut, quoi. Ils y croyaient. Le sentiment, ce qu'elle dégage à ce moment-là, c'est ça. C'est
oui, les institutions n'y croient plus. Mais bon, il y a plein de gens qui ont déchanté. Aperçu que c'était du pipeau, qu'il y avait des lobbies qui pensaient par-dessus toutes les règles de notre société, quoi. C'est clair.
Nous, c'est un peu comme partout, sans doute. Ils ont commencé les travaux sans accord, déjà. Un matin, ils se sont pointés dans la cour et puis ils ont dit qu'on commence les travaux ce matin.
Ah oui, d'accord.
Voilà, on n'a pas eu, eu d'information que ça. Donc, ils sont venus. Moi, j'ai contacté un huissier. 11h, on a arrêté les travaux. Et à 14h, ils sont revenus et continuent les travaux. Un soir, il y a deux mecs qui se mènent là. Des gardes RTE pour nous faire signer la convention. Parce que finalement, il avait fait travaux, mais on n'avait jamais rien signé. On a d'ailleurs encore jamais rien signé. Il voulait nous faire signer la convention de passage, j'ai refusé. De toute façon, les travaux étaient faits. Alors, et en même temps, il me dit, bon, vous voulez vous présenter l'indemnisation. Il me dit, indemnisation, j'en veux pas. Il me dit, vous n'êtes pas dans les règles, n'achèterez rien. Donc j'ai refusé. Et toujours après, ils m'ont envoyé le huissier pour me présenter la convention et l'indemnité, ce que j'ai refusé pour une raison. Alors lui, il dit, bon ben, moi je fais mon boulot, il dit, je vais vous mettre un avis pour ça, un peut-être. On fait tout le boulot, je vais mettre un avis pour ça, un peut-être, et il devait me présenter dans les 30 jours. Monsieur Lucier, je n'y ai pas été. De toute façon, quelques jours plus tard, on a reçu un courrier, sans indication de provenance, une lettre normale. Et à l'intérieur, il y avait la convention. Il y avait le chèque d'indemnisation,
les
2200 euros. Alors, tout ça pour vous faire comprendre, enfin vous avez sans doute déjà compris depuis longtemps, c'est pas vous, faut vous dire ça, mais qu'ils veulent absolument que les gens ils acceptent l'argent. De toute façon, consigne, consigne pas, à partir du moment qu'on accepte l'argent, on est
bien sûr, ouais.
On a commencé à bloquer les travaux. Ils ont sorti une ordonnance du juge interdisant à toute personne d'aller sur l'emplacement du pylône et les chemins d'accès.
Sous peine de prendre de 2000 euros
par heure,
par personne.
Et plus ça allait, plus la mise en place des pylônes se déroulait rapidement.
C'est-à-dire que très souvent, la mise en place d'un pylône se faisait sur 1 à 2 mois, avec avant tout le terrassement, la mise en place des accès, fait souvent de manière assez propre, avec protection du terrain en dessous, et ensuite la fondation qui était faite par forage et cimenter en même temps, et après un temps de séchage, ensuite les premières ferrailles qui étaient soudées, et ensuite le pylône qui était érigé, soit ailleurs et amené en hélicoptère, soit sur place et monté petit à petit. Et pour les derniers, en particulier chez Ullersener, où le temps de séchage. Je ne sais pas comment il est le ciment en dessous, mais le pylône a été mis rapidement, au tel point qu'ils ont fait un cadre métallique à la base du pylône de manière à assurer le nivellement.
Parce que le ciment n'était pas sec.
On n'en sait rien, mais vu le temps, a priori, de toute façon, il n'a pas eu de temps de séchage.
Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode 2 des clés à molette et des grues, chronique de la construction de la ligne. La suite dans la deuxième partie.